Avec le confinement, de plus en plus, la pensée m'est venue. L'Église, les uns les autres dans l'Église. Je ne sais pas si on, André, on peut peut-être faire monter les gens qui sont coincés en bas. Ah bon, d'accord. Donc, le confinement m'a fait penser à ça. Où en est l'Église? C'est quoi l'Église? André nous a donné une vue plus théologique, mais après, au niveau de la vie quotidienne, c'est quoi les uns les autres? Comment on le vit? Et je me suis dit, là, il faut que j'attaque ce livre. Alors, pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas hyper sociable. Et moi, je suis du genre qui peut rester sur une île déserte et me réjouir sans m'ennuyer une seconde. Mais la Bible ne nous demande pas ça. Et donc, je vous le dis tout de suite, ne vous sentez pas visés. On est tous visés, et moi la première, puisque je ne suis justement pas le style le plus sociable de l'Église, certainement. Et on est tous visés par ce message. Tous, entièrement. Et donc moi, je l'ai d'abord pris pour moi. Et j'ai bien réfléchi. Et vous savez, quand on lit des choses qui nous plaisent qu'à moitié, on aimerait bien passer au paragraphe en dessous. Mais je me suis efforcée, consciencieusement, de travailler sur ce thème, les uns les autres. Donc, ça va peut-être vous sembler un tout petit peu décousu, parce que bon, c'est un travail de vacances. C'était mes devoirs de vacances. Et donc, j'ai travaillé un peu le matin. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on devra continuer la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres éléments. Entre autres, un élément que j'aimerais bien voir la semaine prochaine, je pense qu'on n'aura pas le temps ce matin, c'est la façon dont la Bible décrit l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous a choqué, mais moi, il y a des versets comme ça dans la Bible qui me semblent bizarres. Je ne vois pas en quoi l'amour de Dieu peut répondre à une certaine géométrie. Longueur, largeur, hauteur et profondeur. Et j'ai enfin eu la réponse dans le livre de Kuhn. Merci, Monsieur Kuhn. Il est décédé maintenant, mais vraiment, j'apprécie. Parce que vraiment, ce verset me trottait un peu dans la tête souvent. L'amour de Dieu avec sa longueur, largeur, et il nous demande d'aimer de la même façon. Ouh, donc ça, je crois que ce sera pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va commencer par le début. Dans Genèse 2:18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors bien sûr, on se sert de ce verset beaucoup pour les mariages. Bien sûr. Mais il y a aussi l'homme, l'être humain, n'est pas bon qu'il soit seul. Et bien sûr, moi je me dis, mais parfois Seigneur, c'est tellement agréable. Mais bon, Dieu a vraiment, visiblement créé l'homme pour vivre en communion avec lui, d'abord, et avec les autres. D'ailleurs, si on regarde la vie d'un être humain normal, il y a des exceptions partout, hein, dans les humains, mais quand même, bah, d'abord vivre en tant qu'enfant avec ses parents, pas toujours facile, avec ses frères et sœurs, encore moins, ça se bagarre beaucoup avec les frères et sœurs, et puis après avec les conjoints, ça c'est terrible, avec les enfants, et puis les beaux-parents, les beaux-frères et belles-sœurs, les cousins, et autrefois les familles étaient beaucoup plus larges que maintenant. C'était quand même un challenge. Et puis, visiblement, Dieu a fait exprès. Hein. Regardez, on se marie en général dans des familles différentes des nôtres. Donc, ça demande encore un effort, les uns les autres. Terrible. Et visiblement, c'est le plan de Dieu. Puis, suivant les époques et les pays, il va y avoir la tribu. Il n'y a pas seulement en Afrique, hein. Il y a bien des tribus européennes. Le village, le voisinage, les collègues. Dieu a visiblement créé l'homme pour vivre en communion avec lui et avec les autres. Ah, Sartre, ah, il était très à la mode quand je faisais mes études, hein, Jean-Paul Sartre. Il avait écrit, je crois, « L'enfer, c'est les autres ». Il me semble que c'est lui hein, qui a dit ça. Et combien de fois, si on veut être honnête devant Dieu et devant nous-mêmes, on pense la même chose. Combien de fois l'enfer, c'est les autres. Si seulement les autres n'avaient pas les mêmes défauts que moi. On ne le présente pas comme ça, mais en fait, ça revient à ça. Et c'est vrai que si on rêve d'une vie totalement paisible, douce, sans conflit, sans contradiction, sans agacement, sans bruit. C'est pas facile de vivre avec les autres ou autour des autres. Le problème, c'est qu'on pense tous la même chose. Pour tous, c'est le même problème. C'est pas évident de vivre autour ou avec les autres. Et c'est sûr que quand j'avais les enfants petits, en général, après le repas de midi, j'emmenais la poussette avec Samuel et puis Olivier, donc qui avait 2 ans et des poussières. Et on faisait une balade de 3 km à peu près au Coudray, tous les jours. Et je préférais le mardi. Pourquoi le mardi ? Parce que le mardi, imaginez que les gens du club hippique étaient absents. Il y avait à l'époque 11 maisons, tout le monde était sorti, sauf un vieux grand-père, mais qui ne sortait pas de chez lui. Et je promenais ma poussette en me disant, je suis seule sur 4 ou 5 kilomètres à la ronde. C'est formidable. Bon, voyez que j'avais vraiment besoin de ce message. Et même j'ai surpris André cette année sur la plage. Évidemment, en septembre, il n'y a pas grand monde. Hein. Presque vide. Et d'un seul coup, il dit, ah, mais c'est une avenue. C'était le chemin qui menait juste à l'eau. Je dis, c'est une avenue. J'ai compté, il y avait 4 personnes. Donc, voyez-vous, la maladie se gagne dans la famille. Et comme j'ai aimé le camping le matin, complètement silencieux, les gens, le peu de gens qu'il y avait dormaient tard. Et nous, contrairement aux habitudes, on s'est levé plus tôt. Voilà. Et on aspire tous à ces moments de calme, de solitude, de paix. Alors, après j'ai réfléchi. Pourtant, quand cet été, pendant pratiquement 2 mois, j'ai entendu les cris joyeux des enfants sur la pelouse et à la piscine, je trouvais ça magnifique. Et on a fait une expérience assez rigolote. On est allé dans un restaurant avant de rentrer. Et finalement, je choisis de manger dehors. Et en fait, chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais peut-être qu'après 15 jours tout seul, on a parlé avec nos voisins de table. Et j'ai trouvé ça super sympa. D'un côté, il y avait un couple âgé, donc plus âgé que nous, si je dis ça. Et puis de l'autre côté, un jeune homme qui vit une partie de la vie en Angleterre. Et voilà, on a longuement parlé avec eux. J'ai trouvé ça super. Moi ? Et puis, bah oui, j'étais contente du coup de fil de ma sœur pour l'anniversaire d'André. On a discuté un bon moment. Et la joie aussi de vous retrouver tous aujourd'hui. Je ne fais pas semblant, je suis vraiment contente. Alors c'est bizarre hein, qu'on puisse être les deux. Avoir cette soif de calme, de solitude, de paix. Et puis, bah, y a quand même des moments où on apprécie les uns les autres. Beaucoup. Alors c'est quoi le plan de Dieu pour les humains ? C'est ça ? Ou est-ce que vraiment les autres, c'est l'enfer ? Alors, dans la Bible, le mot grec pour les uns les autres, c'est allélon, si je dis bien. Il apparaît 100 fois dans le Nouveau Testament. Aïe, 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 100 fois. C'est pas moi qui ai compté, hein, mais 100 fois, ça fait beaucoup. Et vous savez que quand quelque chose est répété dans la Bible, et dans n'importe quel écrit d'ailleurs, mais quand c'est répété, répété, ça a un sens. 100 fois. Les uns les autres. Et à chaque fois, il évoque l'aspect relationnel de la vie d'un croyant. 50 fois, il est associé à un verbe à l'impératif, c'est-à-dire qui exprime un ordre ou un commandement ou une exhortation. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu demande pour nos relations mutuelles. Donc c'est lié à des ordres et aussi souvent à des promesses d'ailleurs. Et 16 fois, le commandement de Dieu est « aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit pas simplement « vivez en société », supportez les autres », il le dit aussi d'ailleurs, mais « aimez-vous les uns les autres ». Et on va voir que le message biblique est à la fois vertical, donc notre relation avec Dieu, et horizontal, notre relation avec les autres. Et on ne peut pas les dissocier. Dans la Bible, c'est comme ça. Alors, je vais juste vous lire, puisque je vous ai dit 100 fois et 50 fois associé à un verbe à l'impératif. Je vais prendre les chapitres donc, de ce livre Pour vous donner une petite idée, bien sûr, il y avait « aimez-vous les uns les autres », « accueillez-vous les uns les autres », « exhortez-vous les uns les autres », « veillons les uns sur les autres », c'est pas le KGB quand même, « édifiez-vous les uns les autres », « estimez-vous mutuellement supérieurs », ou d'autres versets disent « estimez les autres comme étant au-dessus de vous-même », « honorez-vous les uns les autres », « soumettez-vous les uns aux autres », ça c'est terrible, quoi. C'est quoi ? Donc, ça demande des explications dans le contexte. Supportez-vous les uns les autres, ça je pense qu'on accepte tous volontiers. Pardonnez-vous réciproquement. Priez les uns pour les autres. Et pour prier les uns pour les autres, bah, il faut avoir des relations. Et il faut être là pour prier pour les autres, évidemment. Consolez-vous les uns les autres. Vivez en paix les uns avec les autres. En plein accord les uns avec les autres, etc. Il y en a d'autres, mais ce sont les têtes de chapitre. Je pense qu'on reviendra sur certains d'entre eux, surtout les plus polémiques peut-être, les plus difficiles. Mais ça donne une petite idée de ces 50 fois où c'est associé à un ordre. Donc ça veut dire que Dieu clairement nous pousse à vivre en communion avec les autres. Aïe, c'est dommage. Hein. Et à vivre en bonne intelligence. Alors, donc, deux dimensions au message biblique. La dimension verticale, parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative de notre relation avec lui. Et ça, c'est important. Très, très important. Et on va quand même lire ce texte de base dans Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, c'était les hommes religieux de l'époque, très religieux, apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Les sadducéens, c'était d'autres hommes religieux, mais qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Quelle idée, mettre Dieu à l'épreuve. Nous, on ne ferait jamais ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Autrement dit, là, je t'attends. Hein. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. C'est une traduction un peu différente de ce qu'on a d'habitude, mais c'est intéressant. Un second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand j'étais petite, je me posais toujours des questions là-dessus. Est-ce que vraiment c'est vrai que toutes les lois dépendent de ça ? Et si on réfléchit un peu, bah oui. À partir du moment où on aime les autres comme nous-mêmes, évidemment, toutes les autres lois tombent sous le sens. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas de faux témoignages, etc. Évidemment, à partir du moment où on aime les gens, ben, voilà. Donc c'est important de s'appuyer sur ce verset, dimension verticale et horizontale. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative de la relation avec lui. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu par mes efforts, ça je le dis souvent, mais c'est important parce que l'homme est religieux, fondamentalement religieux. Et il va penser que par ses efforts, il va pouvoir atteindre Dieu. Si je suis assez bon, si je suis assez bien, si je suis assez ceci ou cela, alors Dieu peut me recevoir. Eh bien, c'est faux. Dieu nous prend tel qu'on est. J'aime beaucoup ce chant, ce vieux, vieux chant. Merci Rémi d'avoir pris des vieux chants aussi ce matin. Ça fait du bien de temps en temps. Vous savez, il y a un verset qui dit que le scribe instruit du royaume de Dieu, tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et je crois que c'est vraiment vrai pour la louange. Les deux, les nouvelles et les anciennes. Donc c'est important de savoir que Dieu a pris l'initiative et c'est pas nous qui avons cherché à l'atteindre. C'est important. Alors Romains 5, 8, Dieu prouve que encore pécheur, Christ est mort pour nous. Quand on demandait encore rien, qu'on était dans notre bouillasse, dans notre... dans nos problèmes, dans nos soucis, Dieu est mort, Jésus est mort pour nous. 1 Timothée 1, 15, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour sauver des gens parfaits. Et vouloir être parfait, c'est un gros problème. Parce qu'on n'a plus besoin, enfin on croit qu'on n'a plus besoin de Dieu. Il est venu pour sauver des pécheurs. Par Christ, alors celui-là est formidable aussi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons un libre accès auprès du Père, Éphésiens 2, 18. Un libre accès. Combien de fois est-ce qu'on se dit « Ah non, j'ai fait trop de bêtises là aujourd'hui, où j'ai dit des sottises, où j'ai pensé des mauvaises choses, où j'étais trop en colère, je ne vais pas aller prier. » C'est complètement... On fait tout ça, hein, je ne veux pas... Parfois, on se dit, ah non, non, là, ce n'est pas le moment de prier, hein, parce que dis donc, avec ce que je viens de dire, eh bien, c'est complètement idiot, je suis désolée. Nous avons un libre accès auprès de lui. Et c'est justement en allant le voir que les choses vont s'arranger. Je me souviens je crois qu'il est loin maintenant, c'était le maire du village d'à côté, dont les parents étaient chrétiens. Tu connais bien, hein, Evelyne. Et je l'avais rencontré en sortant de la mairie, et je lui avais dit, mais écoutez, faut prier, parce qu'il avait des menaces de mort dans son village, etc. Faut prier, et il m'a regardé, non, je suis trop loin de Dieu pour pouvoir prier. Je lui ai dit, mais justement, c'est là qu'il faut s'approcher de Dieu, quoi. Bon, vous voyez, les idées qu'on a, c'est un gars qui est allé à l'école du dimanche, j'imagine, jusqu'à 12 ou 13 ans. Dommage. Nous avons la responsabilité, par contre, de maintenir vivante la relation verticale avec l'auteur de notre salut, Jean 15, 4. Et ce verset merveilleux, « Demeurez en communion avec moi, et je demeurerai uni à vous. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Quelque chose, bon, je crois que c'est, on l'a dit tout à l'heure, Hélène l'a dit. Et j'aime bien cette traduction, « Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ne nous séparons pas de notre relation verticale. On n'est pas assez bien, ben oui, c'est vrai, c'est bien pour ça que Jésus est mort pour nous. On a trop fait de bêtises cette semaine, et ben c'est le moment ou jamais de revenir au Seigneur. Allons toujours dans ce sens. Parce que lui, alors qu'on était encore pécheurs, il est venu vers nous. Alors après, ça se complique, parce qu'il y a la dimension horizontale. Et dans la Bible, j'allais dire malheureusement, elles sont indissociables. On voudrait bien pouvoir les dissocier, mais non. Et Jésus rajoute tout de suite un deuxième commandement au premier, et c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et les deux sont liés, on ne peut pas les séparer. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est très facile d'aimer les gens des autres églises. Hein, quand on est en vacances, qu'on va dans une église, tout le monde est tellement sympathique. Bien sûr, c'est facile d'aimer les gens de l'Église universelle, on va en reparler tout à l'heure. Mais les gens qui sont à côté de moi, et c'est pour ça que Jésus savait ce qu'il disait en disant « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Ton prochain, celui qui est proche. » À commencer par les conjoints, ça c'est difficile. Hein. Ah là là. Les deux sont liés. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Alors, pas parfait au sens grec, mais complètement accompli en nous. Le deuxième commandement, aussi important que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean 3, 4. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ouh ! Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, les membres, on ne peut pas les séparer comme ça. Ça fait mal hein, quand ça arrive. Nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça veut dire qu'on est proches. Et c'est justement un de mes sujets de réflexion. L'Église sur Internet, c'est super sympa. Ça évite les conflits. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. Mais nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est pas... dans les nuages. Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que c'est vraiment ancré dans le quotidien. Parce que, bah oui, vous allez me dire, si vous avez lu les lettres de Paul, il y avait des conflits, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, il y avait des rouspétances, il y avait tout un tas de trucs. Mais apparemment, c'était pas le pire. Parce que, quelque part, on vit pas sur une planète idéale. Bien sûr, nous, on est parfaits, mais les autres ne le sont pas. Bien sûr. Éphésiens 4, 4 et 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Et là, on est dans le concept de l'Église universelle. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux. Bon, ça, alors on est tous d'accord, là, ça va très très bien. Mais, Corinthiens 10, 17. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Paul, là, se réfère au repas du Seigneur, qui est pris dans, pas dans l'Église universelle, mais dans l'Église locale. Nous participons tous à un même pain. De même, quand il évoque les différents dons, il parle des différentes fonctions qui font vivre le corps local. Inséparable. Le mot « corps », d'ailleurs, comme celui d'Église dans le Nouveau Testament, est utilisé à la fois pour l'Église universelle et pour l'Église locale. Ah, c'est dommage, parce que l'Église universelle, elle est idéale, elle est, voilà, on ne peut pas la voir réunie, parce qu'elle est réunie dans différents corps locaux, etc. Mais l'Église locale, on connaît ses défauts, on connaît ses problèmes, on connaît ses conflits, comme dans les familles. Quelle famille n'a pas de conflit ? Quelle famille n'a pas de problème ou de défaut ? C'est la vie. En 1 Corinthiens 12, 27, c'est aux membres d'une église locale que Paul écrit. Et il écrit ceci. « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, membre d'un corps suppose des relations avec les autres. Romains 12, 5, nous sommes tous membres les uns des autres. Nous faisons tous partie les uns des autres, suivant les traductions. Donc il y a l'église universelle, le corps de Christ, sur l'ensemble de la terre, de toutes les époques, de tous les lieux. Et puis, il y a le corps local. Et dans le Nouveau Testament, en tout cas, on ne sépare pas les deux. Et bien sûr, pourquoi j'ai pensé à tout ça ? Parce qu'on a été pendant plusieurs semaines obligés de se réunir par Zoom, YouTube et toutes sortes de machins comme ça. Et après tout, c'était super sympathique, super chouette. On était contents de se retrouver. Il n'y avait pas de dispute, pas de conflit, on était tout contents de se voir sur un écran. Et puis, quelque part, en réfléchissant, je me suis dit, oui, mais c'est vrai qu'à la limite, si ça durait longtemps, on pourrait vivre comme ça. Et c'est là que ce concept les uns les autres m'est revenu. À partir du IIe siècle, il y a eu des ermites. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ermite. Hein. Des gens qui partent vivre seuls, leur foi. Alors, je crois que tu disais que c'était les pères du désert. Hein. André, hein, c'est plus sur la question que moi. Et ils vivaient donc à l'écart de la société pour se consacrer à la relation avec Dieu, à la prière. Ça fait envie, hein. Ça fait envie parce qu'avec Dieu, c'est quand même un peu plus facile. Surtout si on ferme les oreilles quand il nous dit quelque chose. Parce qu'il ne proteste pas. Moi, j'ai connu pas mal de gens quand j'étais petite, je me souviens. Moi, il n'y a que Dieu, ma relation avec le Seigneur. Le reste, c'est dommage, mais ce n'est pas biblique. Même si bien des moments dans notre vie, on sera un peu d'accord avec ça. Et ils réagissaient comme ça face à la corruption qui les entourait. Je pense aussi dans l'Église des premiers siècles. Hein. Voilà. Jésus avait pourtant été très clair à ce sujet. Hein. Alors, vous savez, il y a des versets, on ne sait pas trop. Mais celui-là, il est clair. Jésus s'adresse au Père et dit « Je te prie de ne pas les ôter du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est appelé à vivre dans le monde. » Ah ! Bon. La vie chrétienne, selon la Bible, se vit dans une communauté. Et le modèle de chrétien qu'on découvre dans le Nouveau Testament, que ce soit un homme ou une femme, c'est un homme ou une femme qui vit avec ses frères et sœurs dans une église locale. Alors ça, j'aurais aimé le lire quand j'étais plus jeune, parce que quand on est parti au Canada, j'avais 20 ans, et je pensais que l'église locale... Ceci étant, on en a cherché une aussitôt arrivée, c'est ça qui était un peu un petit peu étrange, mais je me disais, bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'est notre relation avec Dieu, etc. J'avais un peu cette idée. Terrible, quand on regarde la Bible de près, quand on relit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les deux sont indissociables. Alors, on a aujourd'hui toutes sortes de moyens pour être en contact avec d'autres chrétiens, et c'est chouette. La radio, la télé, les ordinateurs, tablettes, téléphones, et tout un tas d'autres choses dont je ne connais pas les noms, parce que c'est souvent des lettres et des chiffres associés. Faut demander à Olivier. Mais c'est formidable, et c'est super d'en profiter. Et moi-même, j'en ai profité, je me souviens, quand André m'avait acheté le satellite, et du coup j'ai pu avoir des tas de messages qui m'ont construite, qui m'ont fait du bien, particulièrement John Bévéré, Frangipane, et tout un tas de gens qui ont vraiment des messages très forts. Mais ceci étant, ça ne remplacera jamais l'église locale, et ça ne permettra jamais de mettre en pratique. C'est ça le problème. C'est tous ces enseignements que j'entends. Où je vais les mettre en pratique? Oh, bien sûr, dans ma famille. Mais toute cette centaine de commandements concernant les uns les autres, qu'est-ce que je vais en faire? Puisqu'il n'y aura pas de les uns les autres. C'est moi et mon écran. Il n'y a pas les uns les autres. D'autant plus que si on regarde de près, on s'aperçoit que les uns les autres, dans la Bible, ça s'adresse à l'église locale. Pas les parents, les enfants, les frères et sœurs ou les voisins. Là, il parle de l'église locale, à chaque fois. Alors, c'est M. Kuhn qui a vérifié, donc je crois qu'on peut assurer. Il est très consciencieux. Ça me rappelle ce que disait un prêtre de Versailles qui était venu à l'école Notre-Dame et qui avait parlé du supermarché de la religion. Déjà, il y a, ça fait bien 20 ans qu'il disait ça, il disait de plus en plus, et c'est valable dans toutes les églises, protestantes ou catholiques, les gens vont à l'église pour prendre ce qui les intéresse. Et puis, voilà, c'est bon. Alors, le problème, ce qui se pose dans cette liberté formidable, bien sûr, il n'y a pas de frottement, et on peut d'ailleurs idéaliser les gens. John Wimber le disait, hein, il disait tout le monde aimait bien John Wimber à l'époque, et il disait, oh là là, si j'étais votre pasteur, vous auriez peut-être une autre opinion. Et il a donné quelques exemples. Il dit, moi, ouais, je laisse pousser les buissons, mais quand vraiment ils deviennent épineux, paf. Bon, on idéalise, c'est plus facile d'idéaliser quelqu'un qu'on voit sur un écran. Hein. Je suis sûre que vous ne pouvez pas m'idéaliser, parce que vous me connaissez depuis des années, et voilà, vous connaissez très bien mes défauts. Et c'est plus facile de ne pas idéaliser les gens qu'on connaît bien. On les prend plus ou moins tels qu'ils sont, même si on essaie de les faire progresser. Supermarché de la religion, parce que, eh bien, on prend ce qui nous intéresse. Et l'épidémie de Covid nous a empêchés de vivre le message les uns les autres. On l'a vécu dans nos familles, mais pas dans l'église. Comme j'ai déjà dit, les Zooms, YouTube et autres, c'est très sympa. Et moi, je me souviens, c'était au début, quand on est parti en vacances à Luc-sur-Mer, au mois de mai, c'était juste au début du retour. C'était le retour dans les... Oui, ça va, le tout début, les églises avaient réouvert. Et donc, nous, on était en vacances et on a écouté Florence prêcher sur la souffrance. Non, mais quand même. Et j'ai écouté Florence. J'ai beaucoup aimé son message, mais c'est pour vous dire, j'aurais pu zapper. J'aurais pu zapper parce que c'était sur la tablette. Et j'aurais pu dire, oh là là, mais la souffrance, c'est vraiment pas mon truc. Je vais écouter quelqu'un qui parle des bénédictions de Dieu. Bien sûr, il y a des fois où ça peut être bénéfique. Hein. Mais c'est l'avantage et l'inconvénient de l'église Internet. Si Dieu a envie de me dire quelque chose, je peux zapper. Et j'aurais pu aussi écouter ce monsieur Dupont-Durand parler des bénédictions de Dieu. Et puis, si ce n'était pas assez bien, je pouvais changer et trouver quelqu'un qui va développer le thème « Je te bénirai partout où tu iras ». Et je vais entendre, comme on fait parfois avec les psaumes, qui n'a pas fait ça? Moi, je l'ai déjà fait, hein. Soyons honnêtes. Vous savez, les psaumes, on les choisit quand on cherche un psaume, hein, pour se faire du bien. On ne va pas choisir des psaumes qui mettent en garde, qui secouent. On va choisir « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais on est humain, bon, soyons honnêtes. Eh bien, l'église Internet, ça va être, c'est ça aussi. Hein. Non seulement je ne vais pas développer le concept des uns les autres 100 fois dans le Nouveau Testament, ça a l'air d'être sérieux, mais en plus, si le message ne me convient pas au moment où je l'écoute, je zappe. Ah, alors on choisit ce qui nous plaît, on choisit nos frères et sœurs, on choisit quand et comment les voir, etc. C'est super sympa. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être la vie du Nouveau Testament. Ah, c'est certainement plus gratifiant que d'écouter Florence parler de la souffrance, même si c'était excellent. Franchement, vous avez envie d'entendre parler de la souffrance, vous, parfois? Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait manger des légumes aux enfants dans presque toutes les familles françaises? Non mais franchement, trois quarts du temps, ils n'aiment pas ça. Parlez-leur de courgettes et d'épinards. Les miens, par exemple, les cinq. Ouf. Les endives, ouais. Et pourquoi est-ce qu'il faut insister pour leur faire manger des légumes? Pourquoi est-ce qu'il faut insister, comme Dieu insiste dans le Nouveau Testament, sur les uns les autres? Parce que pour la plupart des enfants, c'est quand même plus agréable de manger des pâtes. Les miens sont terriblement amateurs de pâtes, tous les cinq. Ou des frites. Eh bien, on se comporte exactement de la même façon. Et je pense que personne n'est à l'abri. C'est vrai que c'est sympa. Si j'écoute quelque chose... Alors maintenant, j'ai beaucoup moins l'occasion de le faire, mais si j'écoute un prédicateur sur Internet et qu'il me propose des épinards, ou etc., je vais zapper pour aller écouter quelqu'un qui va me parler de choses qui me parlent. Bon, on est humain, quoi, on est normaux, c'est la vie. Et pourtant, il faut que les enfants mangent des légumes. Et le gouvernement n'arrête pas de nous seriner 5 fruits et légumes par jour. Alors profitons des bons messages sur Internet, bien sûr. Mais n'oublions pas que l'Église locale, malgré tous ses défauts, reste le modèle du Nouveau Testament. Alors après, la façon dont ça fonctionne, entre les églises de frères, les églises de Pentecôte, les églises de réformés, etc., c'est autre chose. Mais l'Église locale, c'est le modèle du Nouveau Testament, avec les structures suivant les lieux, les temps, les époques, les gens. Et ne vivons pas en ermite. Et Kuhn disait que beaucoup de gens maintenant vivent en ermite dans les grandes villes. Hélas. Même si quelque part, ça a un côté beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple. Alors, pendant les vacances... on a regardé ce qu'on ne fait pas à la maison puisqu'on n'a pas la télé, on a regardé Arte et il y avait un reportage sur les villages bretons. Alors comme on était en Bretagne, on s'est dit tiens, on va regarder un reportage sur les villages bretons, et j'étais complètement sidérée de voir que celui qui avait fait l'émission avait des tas de compliments sur la vie avec les uns avec les autres. Et comme je préparais le message, évidemment j'y étais sensible, j'ai regardé. Et alors, la vie des uns avec les autres était admirée, commentée. On sentait une envie. Je pense que ce gars, il devait habiter à Paris et il voyait la vie dans ces villages. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais les gens sont tellement différents dans ce reportage, ce qu'il montrait. Hein, il y avait des artistes, il y avait des commerçants. Comment est-ce qu'ils ont pu résoudre leurs désaccords? Les difficultés relationnelles, visiblement, ils les ont surmontées pour en arriver à cette convivialité. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, ce ne sont pas des chrétiens, donc voilà, l'ennemi s'intéresse beaucoup moins à eux, leur casse moins les pieds, ça c'est sûr. Mais j'ai remarqué en les écoutant qu'ils n'avaient pas, j'ai essayé de comprendre comment ils arrivaient à s'entendre, des gens aussi différents, eh bien, ils n'avaient pas un idéal de perfection. Et je crois que dans les relations les uns avec les autres, on a un idéal de perfection. Oh, il ne devrait pas agir comme ça, chrétien depuis tant d'années. Elle ne devrait pas dire des choses comme ça. Bon, on a tous dit ça à un moment ou à l'autre. Hein. Et j'ai remarqué que ces gens n'avaient pas d'idéal de perfection. Ils s'acceptaient dans leur humanité. Et ils souriaient sur leurs différences. Leurs différences de goût et de dons. Et j'ai bien vu dans les conversations où on les voyait relationnés, ils pratiquaient quelque chose que les Anglais appellent « agree to disagree », être d'accord qu'on est en désaccord. Je crois que parfois, voilà, on oublie ça. Bien sûr, il ne s'agit pas du salut en Jésus-Christ ou du salut par la foi ou de la résurrection de Jésus. Là, le désaccord, il est fatal, c'est clair. Une église, elle est fondée sur la parole de Dieu, on ne peut pas tourner autour. Hein. Mais... attention, on n'est pas dans un monde idéal et uniforme. Et on est tous en chemin, et tous à des différents niveaux de chemin. Dans un monde assez difficile, le monde des uns les autres. La vie dans un corps local n'est absolument pas facile, mais c'est une école de formation. Et c'est vrai que souvent, avec retardement, j'approuve ce que fait André. Et quand il a dit que l'Église devait être une école de formation, la première fois, j'ai pensé, wow, par quel bout? Et oui, c'est une école de formation. C'est une école où on peut apprendre à valoriser les autres, à vivre la complémentarité, à s'entraider pour grandir ensemble. Et dans la Bible, les uns les autres, ça implique un cadre précis. C'est le cadre de l'Ecclésia. Assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Je dis ce que M. Kuhn dit dans son livre. Alors, si vous lisez le livre de Kuhn, vous allez retrouver beaucoup de choses que je vous dis ce matin. Ça ne me gêne pas, je vous fais un peu un résumé. Et quand Dieu demande « aimez-vous les uns les autres », c'est une étape, et ça, je n'y avais pas pensé. C'est une étape pour parvenir ensuite à aimer tous les hommes. Et bah, dans la famille, on apprend à se supporter et à s'aimer, c'est clair, hein, les frères et sœurs, ils le savent tous. Qui s'est jamais disputé avec ses frères et sœurs? Moi, j'ai réussi à m'entendre avec ma sœur que vers 15-16 ans. Oui, c'est bon. Voilà. Et on est plutôt sur le mode agree to disagree dans bien des domaines, parce qu'on est très différentes. Mais voilà, il faut apprendre à vivre avec les autres à l'intérieur de la famille. Et c'est une étape, l'église locale est une étape pour apprendre à aimer tous les autres, les collègues de travail, les voisins, etc. Alors le but de Dieu, alors là c'est pas moi qui le dis parce que moi-même, voilà, j'en prends pour mon compte. Le but de Dieu est de briser le cercle étroit de notre égoïsme naturel. C'est Monsieur Kuhn qui a dit ça, c'est pas moi. Et ça m'a fait réfléchir. Le but de Dieu est de briser le cercle étroit de notre égoïsme naturel en élargissant peu à peu le cadre de notre affection. La famille, l'église, le monde. Connaître, accepter et aimer des gens de plus en plus différents, parce que dans la famille, on est différents, mais quand même pas trop trop. Dans l'église, on est très très différents les uns des autres. Et puis dans le monde, n'en parlons pas, vous le savez. Connaître, accepter et aimer des gens de plus en plus différents. C'est clair, dans Galates 6:10, faisons le bien. Oh, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant cette façon de voir ça comme une étape, l'église locale. Eh bien oui, il s'appuie sur Galates 6:10. Faisons le bien envers tous. C'est le but. Faisons le bien envers tous. Mais premièrement, c'est la première étape, envers ceux qui appartiennent à la famille des croyants. C'est une étape. L'église locale est une étape dans notre école de formation. On remarquera aussi que toutes les exhortations les uns les autres s'adressent à l'ensemble des chrétiens. Et ça, c'est important. Elles ne sont pas réservées aux pasteurs ou aux différents ministères d'une église. Exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous, édifiez-vous, consolez-vous, avertissez-vous. Ah bon, c'est pour tout le monde? Moi, je pensais que c'était les anciens de l'église, ou le pasteur, ou les moniteurs d'école du dimanche, les responsables de jeunes. Ah non, sacerdoce universel, on appelle ça, c'est un grand mot, chacun est responsable. Ah, ça, ça change tout. Donc ça veut dire que si je ne le fais pas, je suis à côté. Et manquer la cible, vous savez, quel mot est utilisé dans la Bible pour manquer la cible? Les ministères, les responsables, ils sont là, oui, pour que tous les chrétiens soient rendus aptes à accomplir leur service. Alors ça m'a... Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon? Que chaque croyant soit rendu capable d'exercer son ministère auprès des autres, auprès des uns des autres, selon ses dons et sa formation. Et j'ai réfléchi un peu, ça m'arrive, et je me suis dit, ah mais oui, mais c'est pour ça qu'on a fait le torrent qui purifie, qu'on a fait les formations de la maison d'Élie. C'est vrai qu'au fond, c'était notre but en tant que responsable, que chaque chrétien soit rendu apte à accomplir son service et soit capable de faire ce « exhortez-vous, instruisez-vous, édifiez-vous, consolez-vous, avertissez-vous ». Moi, c'est exigeant tout ça. Hein ? Est-ce qu'on se voit avertir quelqu'un ? C'est dangereux. On va en parler, je pense, la semaine prochaine. Avertir quelqu'un qui court droit vers la falaise ? S'il est persuadé que c'est la bonne direction, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est chaud parfois. Hein. Et pourtant, on est responsable. C'est un ordre. Alors, il y a une façon de le faire, je suis d'accord. L'obéissance aux divers commandements les uns les autres concerne donc tous les membres de l'Église. Chacun est interpellé. Moi, j'ai commencé par moi. Alors, pour terminer, je pense qu'on reverra le reste la semaine prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous, veillez les uns sur les autres, édifiez-vous, construire. Notre but, c'est d'édifier et de construire les autres. Et aimez-vous les uns les autres, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, parce que l'amour, selon la Bible, c'est pas caresser les gens dans le sens du poil. Je pense que dans notre société, l'amour... c'est ta raison, c'est bien ce que tu fais, même si au fond de soi-même on pense « Oh, quelle bêtise !» Ça, c'est la société. Hein. Il faut pas, faut être politiquement correct, voilà. Hein, faut pas choquer, faut pas contrarier les gens. si on sait qu'ils vont droit au bout de la falaise, c'est leur vie. Ben voilà. Et vous vous souvenez ce qu'a dit Cain ? Suis-je le gardien de mon frère ? Ah, elle est dure celle-là. Suis-je le gardien de mon frère ? Quelque part, je suis responsable de laisser l'autre aller à la catastrophe. Ça, c'est dur. Ça, on en parlera. Bien sûr, ça demande un peu d'explication. Estimer les autres supérieurs à soi-même. Oh, ma mère, elle me disait toujours ça. Ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue chez moi. Il faut toujours voir les autres comme étant supérieurs à soi-même. Ça aussi, ça, il y a des limites, on en parlera. Honorer, s'honorer les uns les autres. Se soumettre les uns aux autres, ça, on a besoin d'en parler aussi, parce que ce n'est pas le concept de l'esclavage. Hein. Supportez-vous les uns les autres, ça, je crois qu'on le comprend tous. On est tous appelés à se supporter, avec nos différences. Pardonner les uns aux autres, prier les uns pour les autres. Et pour ça, faut, ce que je disais tout à l'heure, prier les uns pour les autres. Il faut les connaître, il faut connaître les besoins, il faut être présent. Consolez-vous les uns les autres. Et ça, je crois que c'est un des trucs d'ailleurs qui m'a le plus aidé à mieux comprendre les uns les autres. Moi, la solitaire, c'est dans les moments difficiles, comment j'ai apprécié que les gens prient pour moi, que les gens m'encouragent. Enfin, c'était des gens qui étaient en église depuis très peu de temps, qui connaissaient très peu le Seigneur. Moi, ce n'est pas ça que je regarde. C'est le cœur, c'est les fruits, comme dit la Bible. Et c'est là que j'ai compris aussi, dans les moments difficiles, quand les gens sont là pour vous consoler. Quand on vous a tiré dans le dos et qu'il y en a qui sont là pour prier, pour vous consoler. Sans pour autant vous caresser dans le sens du poil. C'est important. Et ça fait du bien. Et Dieu se sert de ceux les uns les autres. On a parlé un peu des mauvais côtés. Je pense que la semaine prochaine, on parlera davantage des bons côtés. Des moments où les uns les autres sont une énorme bénédiction. Et ça, je l'ai vécu. Moi qui pensais à 20 ans que l'église locale, bon. C'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que dans des moments difficiles, j'ai vu des chrétiens capables de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Consoler, avertir, accueillir, aimer. Et là, j'ai commencé à prendre bien conscience de ce qu'était l'église locale. Et que malgré tous les mauvais côtés qu'on connaît, il y a tellement de côtés importants. Parce que dans les moments difficiles, c'est là le fond du problème. On est face à la vie, face aux difficultés, face à la maladie, face à la médisance, face à toutes sortes de choses qui font mal. Et quand dans l'église locale, on trouve des gens qui savent prier pour nous, qui savent nous consoler, qui savent nous aider. Et il n'y en a pas qu'un ou deux, hein. Je suis tout à fait hostile au concept du gang, du clan. L'Église n'est pas des clans écossais là, qui se combattent les uns les autres. Mais une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Une fois c'est l'un qui va prier, qui va vraiment vous donner une parole de Dieu, une fois c'est un autre. Et là aussi c'est les uns les autres, pas toujours les mêmes. Et Dieu est puissant. Et ça, je l'ai vécu, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si profondément... Oui, je ne suis pas quelqu'un de très, très sociable, mais les uns les autres, c'est quelque chose de beau que Dieu a voulu, et que Dieu a voulu dans l'église locale, malgré tous les défauts. Et ça, je trouve merveilleux chez Dieu. Vous vous rendez compte que lui, il voit tous nos défauts. Il voit tout ce que vous pensez de travers. Moi, je ne le vois pas, heureusement, sinon je ne vous parlerais peut-être plus. Mais lui, il nous aime. Et on va voir ce que ça veut dire la semaine prochaine. Alors là, il ne faut pas louper ça, ça a été une révélation pour moi. La largeur... La longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et il a demandé qu'on aime comme ça, et on va travailler un peu là-dessus la semaine prochaine. Moi, ça m'a fait un bien fou. Donc, loupez pas ça.
Dieu est amour. Mais ce n'est pas un amour guimauve. Il a amené Jésus à la croix. Dieu a dû nous aimer jusqu'à donner son fils. Donc la prochaine fois, c'est la partie de l'amour. Et c'est vrai que le Covid n'est pas la fin du monde. Hein. Vous croyez ? C'est la fin du monde ? Non. C'est simplement un test. C'est un test. C'est pour l'église locale. Est-ce que l'église locale va survivre ou pas ? On a vu Jacques Baudéré cet été là, à Guilvinec, puisqu'il construit une maison pour son fils. Voilà, on a longtemps parlé. Eh bien, le Covid n'est pas la fin du monde, mais c'est un test pour l'église locale. Et vous savez que le christianisme a révolutionné le monde entier. Il a mis sens dessus, dessous. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas tout ça. Mais c'était des églises locales qui témoignaient, qui évangélisaient, qui étaient présentes dans l'amour. Et l'amour n'a pas de limite. L'amour brise toutes les barrières. L'amour de Dieu en nous, dans nos cœurs, l'amour les uns pour les autres, eh bien c'est ça qui doit nous habiter. Qui nous habite? Et on est très heureux avec Michel d'être responsable de cette église. Et on va vivre des choses fantastiques cette année. Même si c'est dur, parce que on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça avec Pierre-André China. Normalement, c'était un boulevard. Et puis voilà, le boulevard, il est un peu coincé. Mais ce n'est pas la fin. C'est simplement une épreuve de plus. Et qu'on va traverser avec nous tous ensemble, là où Dieu nous a placés, selon sa grande sagesse et ce son dessein bienveillant, ce son plan bienveillant. Amen. Vous êtes prêts à vivre ces choses ensemble? Eh bien voilà, c'est le démarrage de cette nouvelle année, parce qu'en général ça part toujours la nouvelle année en septembre, comme les enfants. Après les vacances. Donc dites à tous ceux qui ne sont pas encore revenus pour différentes raisons, eh bien, qu'on les accueille et que l'église est ouverte et qu'on a une grande chance, c'est une grâce, d'avoir des locaux qui peuvent accueillir tout le monde. Tout le monde. Voilà, et que le Seigneur nous donne les moyens aussi de l'équiper. Et je suis vraiment reconnaissant parce que, vous savez, il y a des églises qui ne peuvent toujours pas ouvrir à cause des règles sanitaires, ce qui n'est pas notre cas. Donc soyons reconnaissants. Amen. Nous avons un privilège de pouvoir vivre l'église locale. Merci au Seigneur pour cet enseignement qu'on va compléter la semaine prochaine. Donc soyez là, ou si vous ne pouvez pas suivre sur Internet, en tout cas tout est enregistré et stocké et on peut revisionner effectivement maintenant tous les enseignements que nous prenons ici.